Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, donc sans lieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir avec Jean Mathias en face de moi, qui est revenu de la piscine. José à la technique, comme d'habitude, qui nous a sélectionné un super morceau qu'on ne connaissait absolument pas, de Ben Cameron. Et ce morceau offre des samples de la personne dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc si vous nous téléphonez et que vous avez deviné de qui il s'agissait, vous allez gagner quoi ? Rien du tout. En fait, il s'agissait donc de Bertrand Russell, donc des samples de Bertrand Russell. Alors Bertrand Russell, c'est un philosophe, logicien britannique qui est né à la fin du 19e siècle, qui est mort à un âge extrêmement avancé dans les années 70, je crois. Si je me souviens bien, j'ai pas lu sa bio juste avant. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant pour tout un tas d'idées qu'il a pu développer, non seulement en philosophie, mais aussi en politique. Même si ce n'est pas à proprement parler un théoricien anarchiste, il a eu une période qu'on pourrait qualifier d'anarchisante. Au moment de la Première Guerre mondiale, Et donc même si ce n'est pas proprement parlé un théoricien anarchiste, je pense que c'est une pensée qui est très très stimulante politiquement, et même pas que, il a beaucoup d'autres dimensions. C'est quelqu'un qui a toujours été, même à un âge très avancé, capable de changer en quelque sorte de braquet théorique, parce qu'il estimait que l'ancien était inadéquat, faux. Et donc, il est en plus, bon, pour ne rien gâcher, dans ses textes qui ne sont pas consacrés à la logique mathématique, il a un humour assez discret, assez anglais, mais relativement féroce. Alors je sais pas si c'est peut-être à cause de mon humour de merde, mais enfin moi ça me fait vraiment beaucoup rire.
Non, il est drôle, je te confirme qu'il est très drôle.
Donc on va vous parler de 2-3 choses autour de Russell ce soir. On va commencer, donc Jean-Mathias va commencer par nous parler, puis sans doute que je l'interromperai pour corriger 2-3 de ses erreurs, de Logicomics. C'est une bande dessinée qui est sortie il y a maintenant 2-3 ans, je ne sais plus.
Ouais.
Qui est consacrée à la vie de Russell et qui est très bien faite, très intéressante. C'est même étonnant d'arriver à rendre la vie d'un philosophe logicien intéressante, mais en même temps, Russell a une vie assez agitée. Entre ces 5 femmes, la prison et ses différentes activités, bon, il y a de quoi faire, mais quand même. Mais c'est vraiment une bonne BD et elle permet, je trouve, de rentrer à la fois dans la vie et dans l'œuvre de cet homme de façon plutôt agréable. Et puis ensuite, on vous parlera. Enfin, moi, j'ai un peu travaillé pour cette émission les essais sceptiques de Russell qui sont publiés aux Belles Lettres. Et Jean-Mathias, lui, pour sa part, s'est chargé de lire, c'est quoi, c'est Science et Religion ?
Science et Religion, ouais.
Science et Religion, donc, ouais. Paru chez... Oh, incroyable, pour une fois, pour vous parler d'un auteur, d'une maison d'édition, comment dire, majeure, et non pas pauvre, donc qui est paru chez Folio Essai. Donc, voilà. Alors, donc, je lance Jean-Mathias après cette longue introduction, où j'en ai profité pour lui voler quelques minutes, histoire qu'il ne prenne pas toute la vedette. Et voilà, donc Jean-Mathias, alors Logicomics...
Logicomics, ouais. Alors donc pour commencer, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est une assez bonne introduction pour rentrer dans l'œuvre de Russell, il me semble aussi. Donc c'est une bande dessinée qui est éditée chez Vuibert, qui d'habitude est plutôt un éditeur de manuels scolaires. Donc c'est peut-être pas un hasard non plus. Donc c'est eux qui ont en tout cas édité la version française de cette bande dessinée, qui effectivement, comme tu l'as dit, balaye un petit peu la vie de Russell, quoique. Pas tous ces aspects, parce qu'en fait c'est essentiellement la quête intellectuelle de Russell qui est mise en scène dans cette bande dessinée, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa philosophie des mathématiques et de la logique. Donc les parties un petit peu hard hein, de ces textes, il faut quand même savoir que Russell c'est le grand philosophe des mathématiques du XXe siècle, il faut quand même le dire, avec quelques autres, mais disons que c'est un des plus grands spécialistes des mathématiques et de la logique du XXe siècle, et donc évidemment ces textes-là en tout cas nécessitent quand même un certain nombre de connaissances techniques souvent, et cette bande dessinée elle mérite au moins de mettre ça ce travail en perspective et de lier ça évidemment avec sa biographie personnelle. Alors juste avant de rentrer dans le déroulé de ce texte-là, enfin de cette bande dessinée, peut-être indiquer quand même juste pour situer pour les auditeurs que Russell, c'est celui qui a donné son nom au fameux tribunal Russell. Parce que ça, c'est des choses qui sont plus connues, même si on ne sait pas forcément qui est le bonhomme derrière ce tribunal-là. Et donc Russell, c'est donc un des cofondateurs du tribunal Russell, comme son nom l'indique, au moment de la guerre du Vietnam.
Avec Sartre.
Donc un tribunal international qui est en fait une institution parfaitement officieuse, hein, mais qui est censée juger avec donc le soutien de grands intellectuels de l'époque, donc comme Russell pour le monde anglo-saxon, et puis Sartre du côté plutôt continental et français et continental en général. Donc qui sont censés, tribunal qui est censé juger les crimes de guerre commis par les États-Unis au moment de la guerre du Vietnam. Et le tribunal Russell est donc une institution qui se maintient encore aujourd'hui, et toujours encore aujourd'hui, il y a un tribunal Russell qui est actuellement en cours, notamment sur les délits commis par l'État d'Israël face au droit international en Palestine. Et bon, un des piliers, un des acteurs majeurs de ce tribunal Russell, c'était notamment Stéphane Hessel, là, qui est mort il y a pas très longtemps, et qui est une des figures du tribunal Russell, tel qu'il est encore en cours et actif aujourd'hui, bien après la mort de Russell. Donc voilà, je le disais juste simplement pour situer un peu politiquement la personne de Russell. Deux, trois éléments encore qui n'apparaissent pas dans le Logicomics là, dont on va parler, vous inquiétez pas, mais qui, pour situer quand même un peu l'ampleur du bonhomme, quoi. Parce que moi j'avoue une grande admiration pour ce type-là, aussi bien pour son projet intellectuel et sa philosophie, mais aussi effectivement, comme tu l'as dit, pour sa vie. C'est quand même quelqu'un qui, pendant la Première Guerre mondiale, se fait virer de son université pour prise de position pacifiste. Il n'y en a pas tant que ça à l'époque, des pacifistes revendiqués et qui effectivement sont prêts à mettre leur carrière en jeu dans cette affaire.
Il y a même quelques anarchistes qui donnent leur soutien à la Première Guerre mondiale.
Bon, voilà, avec les débats qui vont autour, mais en tout cas, Russell, lui, n'a pas tremblé à ce moment-là. Et puis, c'est pas la seule fois où il va se faire virer, c'est-à-dire qu'il se fait renvoyer de plusieurs universités. Ou ne pas se faire embaucher, comme mais il y a notamment toute une campagne qui est montée contre lui aux États-Unis. Alors bien plus tard, mais notamment suite aux textes qu'il a publiés sur le mariage et sur le christianisme, qui sont tout sauf évidemment sympathiques pour le christianisme et pour le mariage. Donc ça lui vaut effectivement un certain nombre de renvois d'université. Alors il fait pas de prison comme c'est le cas pendant la Première Guerre mondiale, où il est emprisonné pendant plusieurs mois suite à ses prises de position pacifistes, mais il a une carrière qui est un petit peu... qui est un peu ponctué par ses prises de position politique et morale, parce que de sa part, les deux vont toujours ensemble. C'est-à-dire que c'est comme tu l'as dit, pas un théoricien de la politique, et surtout il pense que la politique n'est pas une affaire de théorique essentiellement. C'est-à-dire que c'est une affaire de faits, de raisons, de raisonnement, mais et de jugement. Mais c'est une question qui est évidemment à la portée de n'importe qui, et de la rationalité, du raisonnement,
et
du
jugement. Et en cela, alors je me demande si tu projettes pas un peu là-dessus, mais c'est Chomsky l'héritier de Russell.
Bien sûr, de
ce point de vue-là. Ouais. S'il y en a un qui a poursuivi en quelque sorte cette espèce de double carrière à la fois extrêmement technique et pointue d'un côté et en même temps extrêmement engagée de l'autre dans des sujets peut-être plus politiques, sans prétendre détenir la vérité en raison de ses compétences techniques de l'autre côté, c'est-à-dire la linguistique pour Chomsky, ouais, et puis la politique, et puis pour Russell la logique et la politique. Et c'est vrai que Russell, on voit que son passé de logicien, sa pratique de logicien est présente dans sa réflexion politique, mais en même temps, justement, ça lui évite de présenter ça comme une sorte de théorie qui nous donnerait l'alpha et l'oméga de ce que l'on doit penser pour être juste en politique. Mais je reviendrai quand on causera des essais sceptiques.
Et il y a clairement en fait une espèce de d'asymétrie entre la place et la dimension occupée par Russell dans le monde anglo-saxon, pour faire vite, donc aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, mais aussi dans tous les pays de langue anglaise en fait, pour ce qui est de la philosophie, aussi bien théorique que donc sur les questions mathématiques ou logiques, que sur les questions plutôt de mœurs ou de philosophie politique. Russell est un auteur absolument central dans la culture anglo-saxonne. Il est absolument négligé pour ce qui est de la France et de l'Europe en général, l'Europe continentale, mais particulièrement de la France, qui est quand même assez surprenant et assez parfaitement injuste. Quand on voit la dimension du bonhomme, c'est... Et alors, de ce point de vue-là, il y a un point qui est significatif, c'est que la bande dessinée Logicomics, dont on veut vous parler aujourd'hui, est un best-seller absolu aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas. Bon, qui n'est pas un pays anglophone, mais qui est effectivement aussi sensible à cette tradition-là. Et par contre, a eu un succès d'estime, mais très relatif pour ce qui est de son édition française. Alors que bon, il n'y a aucune raison sur le fond.
Si, une très très bonne raison, c'est que dans l'université française... au moins jusqu'il y a très très peu, il valait mieux avoir un passé de poète nazi que de logicien communiste. Absolument. Ou socialiste. Ouais. Ouais, bah c'est mieux vu.
Bon voilà, Michel en profite pour dire du mal de Heidegger, mais il a raison, et c'est vrai que quand on compare effectivement des auteurs comme Russell et Heidegger, bon, c'est
là... Si on peut les comparer, parce qu'il y en a un qui est à moitié incompréhensible.
Voilà, bon, alors que l'autre est parfait. L'autre, en ce qui concerne Russell, c'est parfaitement lisible, hein, ça faut quand même le signaler aux
Sauf
auditeurs.
Sauf ses œuvres vraiment techniques.
Sauf sur, les, voilà, sur les aspects, les trucs de philosophie, des maths et de la logique, là effectivement c'est des points qui nécessitent un certain nombre de connaissances. Pour ce qui est des essais sceptiques dont tu vas parler, ou de sciences et religions dont on sera question un peu plus tard dans l'émission, ce sont des livres parfaitement accessibles et parfaitement lisibles. Il n'y a absolument aucune forme d'ésotérisme chez Russell. Hein, donc, alors, Logicomics, rapidement. Donc c'est une bande dessinée qui met en scène Russell et tout son projet en fait de philosophie théorique, c'est-à-dire qui retrace la manière dont Russell a essayé au début du XXe siècle de trouver les fondements logiques des mathématiques au fond, c'est-à-dire d'arriver à formuler de manière claire sous la forme d'un système d'axiomes comme on dit, c'est-à-dire de propositions évidentes et puis d'un certain nombre de règles fondamentales, hein, les principes sur lesquels reposait l'ensemble des mathématiques. Alors on rentrera évidemment pas dans les détails ici de ce projet-là. Formulé comme ça, ça peut paraître très chiant, voire absolument inintéressant. Il faut bien voir que c'est un projet qui est, alors, intellectuellement complètement fascinant. Et la manière dont il est mis en scène dans Logicomics, vraiment met ce projet-là en valeur, vous rend les choses parfaitement compréhensible, y compris pour des gens qui sont absolument pas spécialistes de ces questions-là. Donc vraiment, allez-y en confiance. Et il y a un certain nombre de prises de liberté à l'égard de la vérité historique, bien sûr. C'est-à-dire que la bande dessinée met en scène un certain nombre de rencontres entre Russell et puis d'autres figures, hein, de cette philosophie des mathématiques et de la logique de l'époque, comme Frege notamment, ou Cantor, des gens comme ça.
Gödel,
bon, tout ça qui sont des qui compte, voilà, enfin vraiment pour nous, pour les plus grands philosophes du XXe siècle, même s'ils sont parfaitement ignorés en France la plupart du temps. Mais donc il y a un certain nombre de rencontres comme ça qui sont un peu inventées par les auteurs, qui sont une poignée de Grecs, il faut le dire. Hein. C'est quand même, c'est un produit grec cette bande dessinée. Il y a des rencontres comme ça qui sont un peu inventées, et puis vous avez aussi un certain nombre de faits historiques, voilà, parfaitement attestés, hein, qui sont mis en scène dans cette bande dessinée, qui en profite aussi pour proposer une espèce d'interprétation un petit peu personnelle et pas inintéressante, hein, il me semble, des relations entre la logique et la folie de manière générale.
Mais parce qu'une bonne partie de ces logiciens, il faut le dire, était complètement dingue.
Ou finit dingue, ou leurs proches, effectivement. Donc il y a toujours cette espèce de frontière là qui est...
Entre la raison poussée à son absolu et d'une certaine manière, ou à son maximum humain, et la folie qui guette pas loin derrière. Donc c'est assez effrayant à certains égards.
Alors c'est un des aspects du livre, hein. C'est pas le seul.
Mais ça fait partie des aspects que le bouquin creuse.
Tout à fait.
De façon régulière. Mmh. Et historiquement, c'est pas inintéressant parce qu'effectivement, un très très grand philosophe comme Gödel a fini par mourir de faim parce qu'il était complètement paranoïaque et il imaginait qu'on voulait l'empoisonner. Ça, je pense que c'est lié à l'induction. Comme on ne pouvait pas prouver le principe d'induction, rien ne pouvait lui prouver que la nourriture qu'il mangerait demain ne serait pas empoisonnée par rapport à celle du lendemain. Quoi. Enfin,
rien ne prouve qu'on n'est pas la victime d'un complot. Ce qu'il faut bien voir, ça peut paraître un peu cliché, hein, cette manière de présenter les choses. C'est pas du tout le cas dans la bande dessinée. C'est effectivement des pistes intéressantes, donc qui sont un petit peu en filigrane, en parallèle, on va dire, hein, par rapport à l'intrigue historique qui est retracée dans la bande dessinée. Donc voilà, vraiment ça on vous conseille, hein, parce que c'est l'occasion de découvrir aussi tout un tas de philosophes parfaitement passionnants. Vous avez plein de choses sur le cercle de Vienne notamment, donc un certain nombre de philosophes autrichiens qui sont très peu connus et qui, alors pour le coup, sont absolument centraux dans toute l'histoire de la philosophie du XXe siècle. Vous avez un certain nombre de choses sur Wittgenstein également, qui est pas un auteur des plus fréquentés. Tout ça sont, bon, voilà, tout un tas de choses qui vous mettent en scène cette scène philosophique là, avec beaucoup de brio, d'intérêt, et vraiment on se fait plaisir et ça vaut le coup. Donc Logicomics, ça voilà, une bonne entrée en matière sur ces questions là et notamment sur des aspects théoriques qui effectivement, si on les aborde sans être prévenu, peuvent avoir un effet un peu migraineux, on va dire, hein, dans une première phase.
Bon, on vous en reparle après une pause musicale. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio donc sans Dieu ni maître ni publicité. Notre technicien taquin José, entendant parler du Vietnam, a décidé de nous passer donc un morceau de Platane, entre parenthèses, et c'est un morceau qui s'intitule « My Little Vietnam », donc « Mon Petit Vietnam ». Subtile allusion au tribunal Russell. Voilà, et donc le groupe Platane, si j'ai bien compris les instructions de José, passera en concert demain. Le 24 mars, donc c'est pas demain, tout à fait, encore que, ça peut se discuter. Donc il passera en concert le 24 mars, à l'espace B, c'est dans le 19e. Me demandez pas exactement où ça se trouve, parce que bon, au moins entre le 24 mars, l'espace B et le 19e, mais le 19e, bon, je me plante un peu. Donc, voilà, donc on vous parlait de Russell. donc de Bertrand Russell, le philosophe, logicien, militant britannique. Entre autres choses, il faut que je vous signale, on ne vous en parlera pas ce soir. Il n'est pas forcément évident à trouver, mais il a écrit un livre qui est hyper intéressant, qu'il a publié en 1921, qui s'appelle « Théorie et pratique du bolchevisme ». Et qui fait suite à sa visite en Union soviétique, où il va rencontrer tous les gars qui comptent de l'époque. Il va rencontrer celui qui a écrit l'ABC du communisme, là, comme il s'appelait déjà celui-là. Il a été exécuté par Staline dans les années 30, comme beaucoup d'ailleurs. Peu importe. Il a rencontré Lénine, il a rencontré Trotsky. Il a rencontré donc celui qui faisait office d'intellectuel dans la bande. Il en a rencontré tout un tas. Et Russell, qui était, et qui est resté très très socialiste, anarcho-socialiste, hésitant entre les deux, je pense, plus ou moins un certain temps. Socialiste, pas au sens du tout de ce qu'on peut connaître aujourd'hui comme socialiste, hein, mais quelqu'un qui était pour une société nette, radicalement égalitaire. Avec une redistribution des biens de consommation essentiels qui empêche que l'un ait plus que le superflu et que l'autre ait le moins que le nécessaire, et que de ce point de vue là il n'y avait pas à discuter pour lui. Donc il était déjà quand même très très à gauche quand il va les voir, et son bouquin est une espèce de description et de critique absolument parfaite, je crois, du système soviétique. Bah, on en trouve quelques-uns, ouais. On trouve des textes à peu près aussi valables chez les anarches ou chez des communistes de gauche.
Victor Serge, Gistrati, oui. Des gens comme ça.
Berkman, cet anarchiste aussi russe qui avait été expulsé des États-Unis, la nana de Berkman.
Goldman.
Et c'est pareil, c'est dans les années 20, début des années 20, que tous ces gens-là.
Ou quasiment tout de suite, quoi.
Oui, quasiment tout de suite.
Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Oui, c'est qu'effectivement, le communisme pour Russell, en fait, est une nouvelle forme de religion. C'est-à-dire, et c'est pas une image pour lui. C'est-à-dire qu'effectivement, il analyse le communisme bolchevique
comme
une religion.
En théorie comme en pratique.
Ce qui est tout sauf un compliment.
Et donc, ça m'amène à mes essais sceptiques, parce que qu'est-ce qui va caractériser la religion suivant Russell ? En fait, c'est la conviction de posséder des vérités absolues, sans preuve. On va dire ça comme ça, ou sans bonne raison. De croire, tout simplement. Et donc, dans les essais sceptiques, alors je pourrais pas vous en faire un résumé intégral parce que c'est des essais, c'est-à-dire qu'ils parlent de beaucoup de choses. Ils ont été publiés en 1928. Donc, à ce moment-là, il est plus du tout, il n'est pas vraiment anarchiste. Parce que ça se voit dans son bouquin, il semble penser qu'un État est plus ou moins nécessaire.
En fait, politiquement,
qu'il faudrait limiter son autorité au maximum, c'est parce ça. Que son côté anarchiste, ouais. C'est penser quand même que l'autorité est mauvaise quasiment en elle-même. Mmh. Mais que simplement, on peut difficilement s'en passer, donc il faut essayer d'en limiter tous les effets nocifs. Une espèce de politique du moindre mal. Ça se voit dans ses idées sur l'éducation. On a besoin il faut à un moment ou un autre dire à un enfant arrête de jouer et viens apprendre à lire. Parce que si on le laisse faire, il va continuer à jouer. Mais ce que Russell dit, c'est qu'en même temps, il démonte toutes les formes d'autorité qui pourraient forcer l'enfant à arrêter de jouer pour aller lire.
Et Russell a monté une école expérimentale.
Oui, hein, complètement.
Avec des succès mitigés d'ailleurs.
Oui,
semble-t-il. Mais... Ah.
Il avait dû avoir du mal avec les gosses. Et donc, l'idée de Russell dans tous ces essais sceptiques, ça va être justement d'essayer d'appliquer une forme de scepticisme modéré à toutes les formes d'idées politiques ou morales qu'on peut avoir. Alors, je vais expliquer
un peu plus.
Donc, le scepticisme, c'est un courant philosophique qui est né en Grèce, comme la plupart des courants philosophiques, et qui, alors, il va prendre plusieurs formes au fur et à mesure de l'histoire, mais globalement, c'est l'idée qu'il faut qu'il faut avoir des arguments pour douter d'à peu près toutes les choses. Enfin, c'est assez au début. Essayer de douter de tout, en trouvant les meilleurs arguments afin de démonter à peu près toutes les théories qu'on peut vous présenter. C'est une forme de scepticisme un peu absolu, ça, au début. Russell lui présente un scepticisme modéré, c'est-à-dire que, je vous lis un peu le passage, voilà, l'introduction de la valeur du scepticisme, hein, parce que je pense que ça, c'est ce qui va servir de fil conducteur à quasiment tous les essais. Donc, et puis vous aurez un petit aperçu de l'humour à froid de Russell aussi. Donc, je désire soumettre à l'examen bienveillant du lecteur une doctrine qui, je le crains, va paraître terriblement paradoxale et subversive. La doctrine en question est celle-ci. Il n'est pas désirable d'admettre une proposition C'est-à-dire une phrase qui propose quelque chose qui serait vrai ou faux, une idée qui serait vraie ou fausse, quand il n'y a aucune raison de supposer qu'elle est vraie. Je dois reconnaître, bien entendu, que si une telle opinion devenait commune, elle transformerait complètement notre vie sociale et notre système politique. Et comme tous les deux sont actuellement sans défaut, ma doctrine ne pourrait pas tenir contre eux. Je me rends compte aussi, et c'est plus sérieux, qu'elle tendrait à diminuer les revenus des voyantes, des bookmakers, des évêques, de tous ceux enfin qui tirent leur subsistance des espoirs irrationnels, de gens n'ayant rien fait pour mériter le bonheur dans ce monde ou dans l'autre. Malgré ces graves objections, je pense qu'on peut trouver des arguments en faveur de mon paradoxe et je tâcherai de les mettre en évidence. Donc, ici, voilà, vous avez ça, c'est, je pense que c'est un passage assez typique de la manière de Russell. Bourré d'ironie et en même temps radical sans en avoir l'air.
Ah oui, parce que là effectivement si on prend le texte au sens littéral c'est effectivement un sacré bouxon.
Voilà, bah, imaginez il n'est pas désirable d'admettre une proposition quand il n'y a aucune raison de supposer qu'elle est vraie. Et en fait ça c'est la petite bombe de Russell contre à peu près tout ce qui peut relever du dogmatisme, c'est-à-dire de la certitude d'avoir raison. Et ça, je pense que son activité de logicien est très importante là-dedans. Parce que Russell a pu constater dans sa pratique de logicien, de mathématicien, à quel point il était difficile d'arriver à une certitude. Et par conséquent, quand il a affaire à des discours politiques, qui s'éloignent énormément du terrain où on peut avoir des connaissances à peu près sûres, bah évidemment, là, son scepticisme, est presque, je pourrais dire, pas d'instinct, mais d'habitude.
Et c'est même peut-être pire que ça, parce qu'il parle pas simplement de certitude, au fond, il parle de vérité.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit même pas d'être certain, il s'agit de ne croire que ce qu'on sait être vrai. Et alors ça, il faut dire que c'est quand même c'est un sacré ménage qu'il faut faire dans ce cas-là, parce qu'effectivement, si on n'a aucune raison de croire,
Je parlais de certitude parce qu'à la fin de ce texte, à la fin du bouquin, il distingue entre vérité et véracité. Et il dit que la vérité est faite pour les dieux. Une façon de dire qu'il y a très très peu de chances qu'on atteigne ou qu'il faudra toujours parler de vérité approchée. Mais que par contre, on peut essayer de faire preuve de véracité. Et ce qu'il appelle la véracité, c'est finalement...
Une forme
d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire n'accepter de croire pour les besoins de l'action... que ce pourquoi on a des preuves à peu près suffisantes. C'est-à-dire qu'il est quand même assez conscient, et ça qui m'intéresse aussi chez lui, c'est qu'en dépit de ce scepticisme qui pourrait être un peu comparable à Attila, derrière il n'y a pas grand-chose qui repousse, on pourrait se dire que pourquoi pas tomber dans l'inaction finalement. Si on n'a aucune raison de croire en ceci ou en cela, pourquoi se bouger. Et chez Russell, il y a justement le fait qu'en même temps qu'il était sceptique, il n'a jamais cessé de s'engager pour des causes qu'il estimait être justes ou contre des choses qu'il estimait être injustes. Et je trouve que c'est intéressant ce mélange. C'est-à-dire à la fois une lutte terrible contre le dogmatisme l'action.
C'est sans doute ce qu'il y a de plus dévastateur contre le dogmatisme. Mais il y a aussi, si je me souviens bien, il y a aussi chez lui... l'idée que avec ce principe-là, l'idée on ne garde et on n'accepte que les croyances pour lesquelles on a de bonnes raisons, en fait.
Alors par croyance ici, il faut pas entendre quelque chose de religieux.
Non, bien sûr, c'est les croyances au sens large. On ne croit que si on a des raisons sérieuses et suffisantes de croire. Et le reste, on met de côté. Il y a aussi en vue toutes les formes de justification des idées ou des croyances qui s'appuient par exemple sur l'utilité sociale d'une croyance. Alors c'est parce que ce sont des manières biaisées et finalement indéfendables de justifier certaines croyances. C'est par exemple certains des arguments qu'on trouve chez certains religieux. Des religieux qui disent oui, peut-être que la religion elle est pas vraie ou qu'on peut pas avoir de certitude ou peut-être même que c'est un peu absurde ce qu'on raconte. Mais en même temps, il faut défendre la religion parce que c'est important pour la vie sociale.
Un argument daté au demeurant.
Ça peut être un argument daté, mais ça peut être aussi un argument de croyance cynique.
Oui, c'est vrai.
En disant, effectivement, il y a une utilité sociale de la religion. La religion, effectivement, ça sert à organiser la vie sociale, à organiser les rapports entre les gens. Et s'il n'y a pas de religion, eh bien, tout fout le camp. Donc, à la limite, peu importe qu'on ait des certitudes ou des preuves, mais cette utilité sociale, voilà, justifie ça. Si on élargit, c'est un argument qu'on retrouve extrêmement souvent, pas simplement sur la religion, mais sur des idées ou sur des croyances, c'est un argument qui est très fréquemment invoqué. Et Russell vise aussi ce genre d'argument-là.
Complètement. Alors, sur l'utilité, en fait, c'est un débat interne à la philosophie. Un de ses ennemis, c'est le pragmatisme. Mmh. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de vérité à proprement parler, mais qu'il y a des croyances qui sont utiles et d'autres qui sont inutiles. Des croyances qui sont efficaces pour l'action, d'autres qui sont inefficaces pour l'action. Et alors, seul lui n'est pas du tout dans cette lignée-là. Il tient mordicus à l'idée qu'on peut distinguer des croyances vraies et des croyances fausses. Sans doute pas dans tous les cas, dit-il. Par exemple, il prend l'exemple justement de... Il dit, voilà, dans les écoles américaines, on interdit d'enseigner que le communisme est bon. Et dans les écoles soviétiques, on interdit d'enseigner que le communisme est mauvais. Forcément, un des deux partis a raison. Le problème, c'est que personne ne sait lequel. Et il ajoute, et la difficulté, c'est que même si l'un des deux a raison, on ne peut pas, en quelque sorte, le complimenter pour ça, parce qu'il a raison pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de chercher, honnêtement, quel système est bon ou mauvais. Ils sont en train de, en gros, de lobotomiser les gamins pour leur imposer une idéologie. Et donc, même si par erreur ou par hasard...
Justifier une...
C'est ça, voilà, c'est ça, pour justifier une idéologie. Donc ils disent, même si par hasard, il y en a un des deux qui a raison, ben, c'est pas pour autant recevable. Et donc il est là-dessus, il est assez féroce. Alors donc dans les essais sceptiques, il va s'en prendre, il va prendre de comment dire. Alors le nationalisme fait partie de ses têtes de turc. La religion est aussi extrêmement fréquemment attaquée. Et alors c'est une espèce de comment dire. On se croirait à la foire dans un stand de tir un peu en lisant ce bouquin parce que il attaque à peu près tout ce qui peut exister, y compris la science d'ailleurs. Enfin la science, il attaque pas proprement parler la science parce que c'est un indécrottable
rationaliste.
Il croit au pouvoir de la raison humaine, il croit au progrès de la science, il pense que la science c'est quelque chose de plutôt correct.
C'est l'héritier de la philosophie des Lumières au XXe siècle.
Complètement. C'est un Hofklärer du XXe siècle.
Il n'y en a pas tant que ça, en fait.
Non, mais lui en fait partie. Et donc il pose des questions, et puis même par rapport à ça, d'ailleurs, il demande si l'homme peut-il être raisonnable, parce que ben, Russell est conscient que l'homme est agité par des passions, et que la raison n'est pas forcément très très forte. En même temps, il ne trace pas forcément de frontières infranchissables entre les deux. Là-dessus, il n'est pas partisan de l'idée que la raison serait une espèce de faculté séparée du reste.
Il est un peu youmien.
Oui. Et alors, il s'en prend aussi à la philosophie. Alors, évidemment, justement, de ce point de vue-là, du point de vue en quelque sorte sceptique, alors, il y a des choses. Parce que, bon il attaque beaucoup Bergson, c'est un petit peu sa bête noire. Je vous lis une partie, par exemple. Une grande partie de la philosophie bergsonienne n'est que du mysticisme traditionnel exprimé en un langage un peu nouveau. Donc ce qu'il voit en quelque sorte chez Bergson, c'est le religieux. Et donc ça, évidemment, il saute dessus à pieds joints pour le piétiner.
Bergson, qui est à l'époque de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire chez nous, est une vraie star philosophique.
Mondiale.
Voilà, c'est-à-dire
il
que
a pris,
c'est
il a pris Nobel.
C'est prix Nobel, c'est des centaines de personnes au cours au Collège de France, des gens qui sont dans la cour du collège, etc. Enfin, c'est...
Donc ce genre de phrases qui sont assez typiques de Russell. Si l'on osait appliquer à la philosophie bergsonienne une chose aussi vulgaire que la logique, certaines difficultés apparaîtraient dans cette doctrine du changement. Donc là, ici, évidemment...
En gros, Coco, t'as des milliers d'auditeurs, mais tu dis n'importe quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, en fait, ce que tu dis.
Voilà, mais évidemment, tu considères que la logique, c'est quelque chose d'assez vulgaire et que tu peux te passer de dire des choses qui soient à peu près... qu'on pourrait articuler dans un raisonnement à peu près cohérent. Et donc, c'est assez... bon... C'est assez, comment dire...
Efficace,
je trouve. Alors aussi, pareil, alors il parle de la morale. J'allais dire un truc sale, là. La morale, le molar, tout ça, enfin, peu importe. Donc je vous lis un autre petit passage qui est très très drôle, et puis après, on coupera, j'espère vous avoir donné un petit peu du livre, et puis on parlera de science et religion. C'est encore un extrait typique de la manière de Russell. On peut considérer comme acquis que tout système éthique est basé sur un certain non sequitur. Non sequitur, je crois que ça signifie qu'il ne se suit pas. Il y a un saut logique, il y a quelque chose qui logiquement ne va pas. Le philosophe commence par inventer une fausse théorie sur la nature des choses. Et il en déduit que les actions mauvaises sont celles qui démontrent la fausseté de cette théorie. Prenons d'abord le chrétien traditionnel. Il allègue que puisque tout obéit à la volonté de Dieu, Le mal consiste en la désobéissance à la volonté de Dieu. Quelque chose qui est totalement impossible si tout obéit à Dieu. Remarquez bien l'idée. Bergson, qui écrit pour le public français, suspend sur ceux dont les actes le réfutent une menace qui est encore plus terrible que la condamnation morale. La menace du ridicule. Il commence par prouver que les êtres humains n'agissent jamais mécaniquement. Pour affirmer ensuite dans son livre « Le rire » que ce qui nous fait rire, c'est de voir une personne se conduire mécaniquement. C'est-à-dire que vous êtes ridicule quand vous faites quelque chose qui prouve la fausseté de la philosophie bergsonienne. Et alors seulement. J'espère que ces exemples montrent suffisamment qu'une métaphysique ne peut jamais avoir de conséquences éthiques qu'en vertu de sa fausseté. Si elle était vraie, les actes qu'elle définit comme péché ne seraient jamais possibles. Donc, ça je trouve que c'est un passage quand même assez fort. J'espère qu'il n'est pas un peu trop compliqué. Voilà, c'est pourquoi est-ce qu'une métaphysique ne peut avoir d'effet que si elle est fausse? C'est parce que si elle est vraie, vous ne pouvez pas agir comme elle dit que vous agissez. Voilà, si les chrétiens avaient raison, vous ne pourriez pas, c'est-à-dire que si tout obéissait à la volonté de Dieu, vous ne pourriez pas agir contre la volonté de Dieu. Mais comme il y a des gens qui se livrent à des choses tellement horribles comme la fornication, la gourmandise et je sais pas quoi encore, évidemment, là on est emmerdé. Voilà, parce que eux, ils obéissent pas à la volonté de Dieu. Donc ils réfutent la théorie. Ils montrent qu'elle est fausse. Et la seule conséquence pratique, c'est qu'on va les condamner. Donc dans le cas de Bergson, on va rire de vous. Si vous agissez mécaniquement, alors qu'il a prouvé au long de 300 pages que vous ne pouviez pas agir mécaniquement.
En gros, la plupart des métaphysiques sont des systèmes qui sont contradictoires, oui, et qui servent à condamner des gens.
Oui.
Voilà. En gros.
Si on résume, ça pourrait être dit comme ça. Tous les systèmes éthiques, en tout cas.
Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire, d'ailleurs.
Sans doute. Sans doute. Il ajoute, en appliquant cette remarque au behaviorisme, le behaviorisme, donc, c'est l'idée qu'on ne peut absolument pas connaître la conscience, et que tout ce qu'on peut observer, c'est en quelque sorte ce qui rentre...
Les comportements publics des gens.
Les comportements publics des gens en fonction des stimuli extérieurs. En appliquant donc cette remarque au behaviorisme, j'en déduis que si, et dans la mesure où il a des conséquences éthiques, il doit être faux. Et inversement, s'il est vrai, il ne peut avoir aucune influence sur notre conduite. Donc ça, c'est pour les systèmes éthiques. Oui. Petite pause musicale.
Message de la France d'en bas à la France d'en haut. Ce n'est pas la rue qui gouverne, mais c'est la rue qui essuie la morve de tes gamins, qui essaie de leur apprendre à lire, à compter et à écrire. C'est la rue qui se déplace 5 fois la nuit pour amener le bassin à ta vieille maman, qui lui change ses pansements. C'est la rue qui conduit le train qui t'emmène en vacances, le bus et le métro que tu ne dois pas prendre souvent. C'est la rue qui fait le planton des heures devant le restaurant où tu déjeunes de quelques bons plats préparés par la rue. C'est la rue qui achemine ton courrier, qui répare tes câbles, tes tuyaux qui font que tu peux prendre un bon pain chaud. La rue qui se lève tôt pour que tu aies du pain frais, un café et un journal. La rue qui ramasse les poubelles, nettoie tes bureaux, fabrique ta prochaine voiture de fonction, installe ton matelas et ton parasol, réponds au téléphone, approvisionne les rayons, tape tes discours, taille la haie, photocopie, balaie, ausculte, t'attends, épluche, emballe, graisse, passe, repasse, arrose. Salaire de ministre, augmentation de 70% comprise. La rue qui cotisera pour ta retraite de ministre. Et parfois on se demande bien pourquoi, c'est la rue qui vote. Je le dis avec une grande humanité, mais je le dis avec une grande fermeté. Je suis dans la rue, j'y suis bien, et je t'emmerde. Je suis dans la rue, j'y suis bien, et je qui se déplace 5 fois la nuit pour amener le bassin à ta vieille maman et qui lui change ses pansements. C'est la rue qui fait le planton des heures devant le restaurant du déjeuner de quelques bons plats préparés par qui?
Bonsoir. bonsoir. Vous êtes sur Radio Libertaire toujours, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4. C'est José au micro, juste pour une petite annonce, pour souffler avant de repartir sur Bertrand Russell. Donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'est le groupe Joujou, que vous avez vu, comme moi, hier soir à la miroiterie, avant-hier soir à la cantine de Belleville. Mais comme on s'en lasse pas, on va les revoir demain. Et demain, c'est pour la bonne cause en plus, c'est un concert de soutien aux Rémouleurs. Donc les Rémouleurs, c'est un lieu auto-organisé de lutte et de critique sociale à Bagnolet, à la limite de Montreuil. Ils ont besoin un peu de sous pour payer les factures d'électricité et tout ça. Et ça se passe pas au Rémouleurs, mais à la Parole Errante. Donc c'est à Montreuil, au métro Croix de Chavaux, 9 rue François de Bergue, à la Parole Errante. C'est demain à partir de 19h. C'est une entrée libre, il y aura à boire et à manger. Il y aura donc Joujou qu'on vient d'écouter. Il y aura les Subtle Turnips, un groupe qui date d'il y a, qu'on avait vu il y a une vingtaine d'années. Il y aura du rap, il y aura du rock et plein de choses. Voilà, je redonne la parole à mes camarades pour parler de choses beaucoup plus profondes.
Pas sûr que ce soit beaucoup plus profond.
Ouais, merci José, sympa. Hein.
Sympa, voilà, ça, voilà, il nous savonne la planche là. Ouais, et en gros, bien. Il a dit qu'on était en train de vous raconter des trucs chiants. Ouais. Alors que lui vous parle de musique sympa avec une chanteuse sympa,
sympa
qui
José,
danse
merci.
De façon sympa sur la scène.
Ouais. Et la cible, merci José.
Voilà, bon, hein. On réglera nos comptes après. Alors Jean-Mathias, donc toi tu veux nous parler d'un truc sympa, sexy et lascif.
Lascif, exactement.
Science et religion de Bertrand Russell.
Voilà. Oui, bah, c'est un petit peu pour continuer sur cette présentation là de Bertrand Russell. Donc après Logicomics, là, la bande dessinée qui présente un peu les aspects de sa philosophie théorique et puis les essais sceptiques dont tu nous as parlé, où il met en application son principe dévastateur là, qui consiste à ne retenir finalement que les croyances pour lesquelles on a des raisons sérieuses de croire au fond et de laisser de côté toutes les autres, ce qui en fait quand même un sacré paquet. Moi je voulais vous parler d'un petit livre aussi de Russell qui s'appelle Science et Religion. Alors ça, je sens que ça va vous plaire, chers auditeurs, puisque alors ça c'est c'est un petit livre que vous trouvez donc chez Folio Essai. Ouais.
Parce qu'une des constantes quand même de Russell, c'est qu'il il a passé quasiment toute sa carrière à critiquer la religion, il faut le savoir.
Et avec efficacité, et avec précision.
Et avec humour. Et ça, c'est vieux dans sa vie, parce que son père était libre penseur, avait exigé qu'il soit élevé en dehors de tout précepte religieux. Le problème, c'est que le père est mort, que Russell est tombé dans les griffes de sa grand-mère, qui était une bigote de la haute société anglaise. Son grand-père avait été premier ministre, quand même. Donc Russell a reçu une éducation religieuse, en dépit de la volonté de son père. Il s'en est défait, et ensuite, il s'est vengé, toute sa vie.
Alors, Science et Religion. Science et Religion, c'est un petit livre par la taille, et qui en même temps est assez trompeur, parce que, en fait, c'est une espèce d'histoire des conflits et de la lutte, finalement, que la religion a livrée contre le progrès scientifique. Donc ça se présente comme ça. Alors je vous donne la table des matières pour que vous ayez une idée, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc premier chapitre consacré à la révolution copernicienne, donc la découverte que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Deuxième chapitre consacré à l'évolution, donc les théories de Darwin. Troisième chapitre consacré à la démonologie et à la médecine. Chapitre suivant, l'âme et le corps. Ensuite, le déterminisme, le mysticisme, le destin, le dessin cosmique, science et morale. Voilà de quoi ça parle. C'est-à-dire que ça nous reprend de manière chronologique assez stricte, hein, toutes les étapes, finalement, les grandes étapes du conflit entre science et religion. Sachant que c'est toujours la religion, qui a finalement ouvert les hostilités contre la science. C'est-à-dire que ce que Russell...
Et plus concrètement, c'est souvent les religieux au pouvoir qui ont ouvert les hostilités contre les scientifiques.
Absolument.
Qui étaient des personnes privées et qui étaient passibles de prison, de bûcher, de moquerie ou d'autres choses.
Alors vous avez dans ce texte-là, Science et Religion, vraiment, je vous conseille de lire ça, parce que c'est une espèce d'histoire de l'obscurantisme, au fond. Hein. Et, une histoire précise, argumentée, factuelle, avec beaucoup d'informations, y compris des anecdotes savoureuses, dont je vais vous en lire quelques-unes, parce qu'il y a vraiment de quoi. Mais c'est comme ça qu'il faut le lire. Alors en même temps, je dis que c'est un petit livre, un peu trompeur, parce que c'est un livre qui mérite d'être lu, relu, re-relu et re-re-relu, en réalité, parce qu'il est extrêmement dense. C'est-à-dire qu'une première lecture, vous allez accrocher voilà, sur les aspects anecdotiques, sur les aspects historiques un peu pointus ou plus ou moins farfelus qui sont mis en avant par Russell. Si on fait le compte de la manière dont Russell construit son argumentation, On arrive à quelque chose d'extrêmement dense et d'extrêmement consistant.
Alors on pourrait dire que Russell fait partie de ces philosophes qui sont d'un abord extrêmement facile.
Exactement.
Et qui, en même temps, si on les lit bien, se révèlent beaucoup plus complexes qu'on ne pouvait imaginer. Il y a Hume qui est comme ça, Platon d'une certaine manière. C'est des philosophes qui sont, de ce point de vue-là, relativement intéressants parce qu'ils peuvent être lus par le premier venu. Comme ça, quelqu'un qui tombe par hasard sur un livre, il le lit, voilà. Bon, il comprend 2-3 bricoles, il les retient peut-être ou pas. Si ça l'intéresse, il peut relire le livre. Évidemment, plus il va le relire, plus il va savoir s'il y a des trucs dedans.
Voilà.
Donc, et au bout d'un moment, il va avoir le vertige.
Alors, c'est ce genre de livre-là. Alors, je vous lis juste très rapidement pour vous donner un petit peu la manière dont il fonctionne. Alors, il explique donc premier chapitre, par exemple, donc la révolution copernicienne. Donc là, il est question d'astronomie un petit peu générale. Donc, alors, je vous le donne rapidement. Les deux premières lois de Kepler furent publiées en 1609, la troisième en 1619. La plus importante des trois, au point de vue de notre idée générale du système solaire, était la première, d'après laquelle les planètes tournent autour du Soleil selon des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. C'est typique du style de Russell. Il ouvre une parenthèse en disant « Pour dessiner une ellipse, piquez 2 épingles dans une feuille de papier, à 5 cm l'une de l'autre par exemple, puis prendre un fil de 10 cm de longueur par exemple, et en fixer les 2 extrémités aux 2 épingles. Tous les points qu'on peut atteindre en tendant les fils sont une ellipse, dont les 2 épingles sont les foyers. Autrement dit, une ellipse se compose de tous les points tels que, si on additionne les distances de chacun aux 2 foyers, on obtient toujours la même quantité. » Fermez la parenthèse. Voilà, ça c'est typique de Russell. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce que c'est qu'une ellipse ? Eh bien, je vais vous expliquer comment en tracer une. Vous prenez vos épingles, vous prenez votre fil, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est comme ça que ça marche. Et je ne vais pas vous assommer avec des concepts un petit peu obscurs. Faites l'expérience vous-même sur votre papier brouillon. Voilà, typique de Russell. Alors, on a d'autres passages comme ça qui sont en général toujours... aussi savoureux, avec le côté ironique dont tu parlais tout à l'heure. Alors, un peu plus loin, il nous parle de Galilée. Alors, Galileo Galilei fut la plus importante figure scientifique de son temps, à la fois par ses découvertes et par son conflit avec l'Inquisition. Son père était un mathématicien désargenté et il fit tout son possible pour tourner l'enfant vers des études qu'il espérait plus lucratives. Il réussit à empêcher Galilée d'apprendre même l'existence des mathématiques jusqu'à ce qu'il entendit par hasard, à l'âge de 19 ans, une leçon de géométrie en écoutant aux portes. Il se jeta aussitôt avec avidité sur cette étude qui avait pour lui tout le charme du fruit défendu. Conclusion de Russell, malheureusement, la morale de cette histoire a été perdue pour les maîtres d'école. Voilà, et on est plein, donc comme ça, c'est, voilà, y a encore une petite autre. Alors là, on est dans le chapitre consacré à l'évolution, donc à tous les efforts que la religion a pu faire pour lutter contre les théories de l'évolution défendues par Darwin. Alors, avec un certain nombre de difficultés quand même que Russell met en avant, par exemple, une autre source d'ennui, pour les religions bien entendu, était le nombre même des espèces révélées par les progrès de la zoologie. Elles se comptent actuellement par millions. Et si 2 spécimens de chaque espèce se trouvaient dans l'arche, celle-ci devait être plutôt encombrée. Voilà, ce genre d'argument assez simple qui...
Non mais Noé, il avait construit un truc équivalent au Titanic, c'est
oui,
évident.
Oui, c'est ça, ou Charles de Gaulle. Alors voilà, un peu plus loin, dans les chapitres consacrés à la démonologie et à la médecine. Alors, c'est pareil, il y a des chapitres... Les bras nous en tombent, effectivement, parce qu'on a oublié la manière dont, effectivement, les religions ont lutté pied à pied contre, y compris le progrès médical. Donc on avait notamment, il y a tout un passage sur les pestes et les épidémies. Alors on expliquait, voilà, un moyen de détourner la colère. Donc évidemment, la peste était un fruit de la colère de Dieu, évidemment. Un moyen de détourner la colère de Dieu, c'était de donner des terres à l'Église, bien entendu. En 1680, alors que la peste faisait rage à Rome, il fut établi que cela provenait de la colère de Saint Sébastien, dont le culte avait été négligé. Alors on lui érige un monument, et puis la peste, c'est ça. En 1522, en pleine Renaissance, les Romains firent d'abord un faux diagnostic de la peste qui ravageait leur cité. Ils crurent qu'elle était due à la colère des démons, c'est-à-dire des anciens dieux, et ils sacrifièrent en conséquence un bœuf à Jupiter dans le Colisée. Comme cela ne donnait aucun résultat, ils instituèrent des processions pour implorer la Vierge et les saints, ce qui, comme ils auraient dû s'en douter, se montra bien plus efficace. Alors, la peste noire de 1340...
C'est amusant quand même de savoir qu'un pape a autorisé qu'on sacrifie un bœuf à Jupiter à Rome à cette époque-là.
Oui, non, mais tout est bon. Hein. Donc, alors après, voilà, t'as
dans le cochon. Ah non, c'était un bœuf, zut.
Donc après, t'as pareil. Alors, la même chose, la peste noire de 1348. Commentaire de Russell, non seulement les méthodes superstitieuses de lutte contre la maladie étaient universellement considérées comme efficaces, mais l'étude scientifique de la médecine était évidemment rigoureusement proscrite. Alors bon, on a tous... Alors il y a des passages aussi, alors c'est pareil, que j'avais oublié sur les réactions de la médecine face au développement de la vaccination. Vous avez ce passage à page 77. Les vieux préjugés théologiques, bien que très affaiblis, étaient réveillés par toute nouveauté sensationnelle. L'inoculation contre la variole souleva une tempête de protestations dans le clergé. La Sorbonne la condamna pour des motifs théologiques. Un pasteur anglican publia un sermon où il affirmait que les abcès de Job étaient incontestablement dus à l'inoculation par le diable. Et de nombreux pasteurs écossais signèrent un manifeste déclarant qu'il s'agissait de tenter d'éluder le châtiment de Dieu. Toutefois, la baisse de la mortalité par variole fut telle, suite aux inoculations, que les terreurs théologiques furent impuissantes à contrebalancer la peur de la maladie. En outre, l'impératrice Catherine de Russie se fit inoculer en 1768, ainsi que son fils. Or, sans être tout à fait un modèle au point de vue moral, elle était considérée comme un guide sûr en matière de sagesse pratique. La controverse avait commencé à s'apaiser quand la découverte des vaccinations la ranima, etc., etc. Donc vous avez vraiment une espèce de catalogue de toutes les bêtise et de l'obscurantisme religieux. Alors vous avez, alors je vous le garde quand même ça, il faut que je vous le lise, ce petit passage sur saint Thomas d'Aquin, qui est donc le théoricien officiel de l'Église catholique, on va dire le philosophe officiel. Et alors effectivement, ce qui l'amène à tenir des positions position compliquée. Alors je vous en livre une, parce qu'effectivement ça m'avait pas effleuré, mais à y regarder de plus près, il y a de quoi s'amuser quand même des fois. Alors la doctrine des philosophes chrétiens, qui était surtout platonicienne, on est page 84, devint surtout aristotélicienne après le 11e siècle. Saint Thomas d'Aquin, qui est officiellement considéré comme le plus grand des scolastiques, est resté jusqu'à ce jour le modèle de l'orthodoxie philosophique dans l'Église catholique. Les maîtres du Vatican, vous nous excuserez. Les maîtres des établissements.
Ah, mais bouge pas, c'est bon, on peut parler du Vatican aujourd'hui.
Donc, les maîtres d'établissements d'enseignement placés sous l'autorité du Vatican peuvent exposer comme ayant eu un intérêt historique les systèmes de Descartes, de Locke, de Kant ou de Hegel, mais ils doivent montrer sans équivoque que le seul système vrai, c'est celui du docteur angélique, comprenez Thomas d'Aquin. La limite extrême de ce qui est permis, est de prétendre, comme le fait son traducteur anglais, qu'il plaisante quand il se demande ce qui adviendra le jour de la résurrection du corps d'un cannibale dont le père et la mère étaient cannibales. Il est manifeste que les personnes que lui-même et ses parents ont mangées ont un droit de priorité sur la chair de son corps, de sorte qu'il restera dépouillé quand chacun revendiquera son dû. C'est là une difficulté réelle pour ceux qui croient à la résurrection des corps affirmée par le symbole des apôtres. C'est un signe de l'affaiblissement intellectuel de l'orthodoxie à notre époque qu'elle conserve le dogme tout en traitant de plaisanterie une grave discussion des problèmes embarrassants qu'il soulève. Bon, donc effectivement, sur le qu'adviendra-t-il des cannibales et de leurs parents plus tard, le débat reste ouvert. Mais vous avez donc toute une série de rapports historiques là-dessus. Alors, dernière citation quand même pour le plaisir, sur la question des rapports entre l'âme et le corps. Donc évidemment, Russell les a examinés, mais de manière pas simplement ironique, c'est-à-dire de manière argumentée, précise et rigoureuse. Est-ce qu'il en est des arguments en faveur de la distinction entre l'âme et le corps? Et puis, est-ce qu'on a de bonnes raisons, pour le coup, en appliquant le principe dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on a de bonnes raisons de considérer que la notion d'âme a un sens et qu'on doit croire à l'existence de l'âme? Bon, il arrive à la conclusion que non. Et la dernière phrase de ce chapitre consacré au rapport entre l'âme et le corps, je vous la livre, on est page 106. Nous pouvons regretter l'idée que nous ne survivrons pas. Mais c'est une consolation de penser que tous les persécuteurs, mangeurs de juifs et charlatans, ne continueront pas à exister pendant toute l'éternité. On nous dira peut-être qu'ils s'amélioreraient avec le temps. Mais j'en doute.
Bon, sur cette phrase, on va vous laisser. Donc, nous laissons la place donc à nos camarades entre chiens et loups, voilà, qui là sont en train de trépider en sueur dans le studio et de s'arracher les poils de cheveux en se disant qu'on prend trop de temps, tout ça. Voilà, il y en a un qui est en train de casser ses lunettes. Voilà, donc on vous a parlé de Bertrand Russell, de Science et Religion édité chez Folio Essai, et donc et aussi des Essais sceptiques qu'on trouvait aux Belles Lettres. Et enfin, donc au début, on vous a parlé de Logique Comics, une bande dessinée sur la vie de Russell et ses recherches mathématiques. Voilà, donc à dans deux semaines, normalement, si c'est pas le cinquième jeudi du mois, et profitez bien d'Entre Chiens et Loups.
Voilà, juste pour finir, on va vous passer net, parce que la dernière fois, ils avaient été coupés, on les avait annoncés, on n'avait pas pu les passer, donc mille excuses, on les passe maintenant. Ned de Lyon.